une croissance démographique négative? Il va de soi que ces prévisions sont relativement incertaines. Elles dépendent d'une part de l'évolution de l'espérance de vie, et donc en partie des découvertes scientifiques dans le domaine médical, et d'autre part des choix que feront les générations à venir concernant leur fécondité. Pour une espérance de vie donnée, la croissance démographique découle mécaniquement de la fécondité. Le point important dont il faut être conscient est que de petites variations dans le nombre d'enfants que les uns et les autres décident d'avoir peuvent entraîner des effets considérables au niveau d'une société tout entière. Si la fécondité est de 1,8 enfants survivants par femme, soit 0,9 enfants par adulte, alors la population diminue mécaniquement de 10% par génération, soit environ moins 0,3% par an. Inversement, une fécondité de 2,2 enfants par femme, soit 1,1 enfant par adulte, entraîne un taux de croissance générationnelle de 10%, soit plus 0,3% par an. Avec 1,5 enfants par femme, la croissance est de moins 1,0% par an. Avec 2,5 enfants par femme, elle est de plus 0,7%. Or, toute l'histoire démographique démontre que ces choix de fécondité sont en grande partie imprévisibles. Ils dépendent de considérations à la fois culturelles, économiques, psychologiques et intimes, liées aux objectifs de vie que les individus se fixent à eux-mêmes. Ils peuvent également dépendre des conditions matérielles que les différents pays décident ou non de mettre en place pour concilier vie familiale et professionnelle, école, crèche, égalité des sexes, etc. Question qui, sans nul doute, prendra une part croissante dans les débats et les politiques publiques au XXIe siècle. Par-delà la trame générale décrite plus haut, on observe dans l'histoire des populations toutes sortes de spécificités régionales et de retournements spectaculaires, souvent liés aux particularités de chaque histoire nationale. Le retournement le plus spectaculaire concerne sans doute l'Europe et l'Amérique. Personne n'aurait pu se douter dans les années 1780, quand les pays d'Europe occidentale regroupaient déjà plus de 100 millions d'habitants, et l'Amérique du Nord à peine 3 millions, que l'équilibre allait se renverser à ce point. Au début des années 2010, l'Europe occidentale dépasse tout juste les 410 millions, contre 350 millions en Amérique du Nord. D'après les prévisions des Nations Unies, le processus de rattrapage sera achevé d'ici aux années 2050, où l'Europe occidentale atteindra péniblement les 430 millions d'habitants contre plus de 450 millions pour l'Amérique du Nord. Il est intéressant de noter que ce retournement s'explique non seulement par les flux migratoires, mais également par une fécondité sensiblement plus élevée dans le Nouveau Monde que dans la vieille Europe. Écart qui se prolonge d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, y compris parmi les populations d'origine européenne, et qui est en grande partie un mystère pour les démographes. En particulier, la plus forte fécondité américaine ne s'explique certainement pas par des politiques familiales plus généreuses. Ces dernières sont presque inexistantes outre-Atlantique. Faut-il y voir une plus grande foi dans l'avenir, un optimisme propre au Nouveau Monde, une plus forte propension à se projeter, soi-même et ses enfants, dans un monde en croissance perpétuelle? S'agissant de choix aussi complexes que les décisions de fécondité, aucune explication psychologique ou culturelle n'est à exclure, a priori. Et rien n'est jamais écrit à l'avance. La croissance démographique américaine ne cesse de décliner, et tout pourrait se retourner si les flux migratoires en direction de l'Union européenne continuent d'augmenter, si la fécondité progresse ou si l'espérance de vie européenne creuse l'écart avec l'Amérique. Les prévisions de l'ONU ne sont pas des certitudes. On retrouve également des retournements démographiques spectaculaires à l'intérieur même de chaque continent. Au sein de l'Europe, la France apparaît ainsi comme le pays le plus peuplé au XVIIIe siècle. Comme nous l'avons déjà noté, Jung et Malthus y voient l'origine de la misère des campagnes françaises, voire de la Révolution, puis se caractérise par une transition démographique inhabituellement précoce, avec une chute des naissances et une quasi-stagnation de la population dès le XIXe siècle, phénomène généralement attribué à une déchristianisation également très précoce, et enfin, par un rebond tout aussi inhabituel de la natalité au XXe siècle, rebond souvent associé à la politique familiale mise en place après les conflits militaires et le traumatisme de la défaite de 1940. Ce pari est d'ailleurs en passe d'être réussi, puisque, d'après les prévisions des Nations Unies, la population française devrait dépasser celle de l'Allemagne dans les années 2050, sans que l'on sache très bien démêler les différentes causes, économiques, politiques, culturelles, psychologiques, dans ce retournement. À une échelle plus grande, chacun connaît les conséquences de la politique chinoise de l'enfant unique, décidée dans les années 1970, à un moment où le pays craignait de ne pas réussir à sortir du sous-développement, et actuellement en voie d'assouplissement. La population de la Chine est maintenant sur le point d'être dépassée par celle de l'Inde, alors qu'elle était de l'ordre de 50% plus élevée jusqu'à ce que cette politique radicale soit adoptée. D'après l'ONU, la population indienne devrait être la plus élevée du monde de 2020 à 2100. Mais là encore, rien n'est totalement écrit. L'histoire de la population mêlera toujours des choix individuels, des stratégies de développement et des psychologies nationales, des ressources intimes et des volontés de puissance. Personne ne peut sérieusement prévoir ce que seront les retournements démographiques du XXIe siècle. C'est pourquoi il serait bien présomptueux de considérer les prévisions officielles des Nations Unies autrement que comme un scénario central. D'ailleurs, l'ONU établit également deux autres jeux de prévisions et les écarts entre les différents scénarios à l'horizon 2100 sont sans surprise extrêmement importants. Le taux de croissance de la population mondiale entre 2070 et 2100 est de 0,1% selon le scénario central, moins 1,0% selon le scénario bas et plus 1,2% suivant le scénario haut. Il n'en reste pas moins que le scénario central est de loin le plus plausible dans l'état actuel de nos connaissances. Entre 1990 et 2012, la population européenne dans son ensemble était déjà en stagnation quasi complète et diminuée dans plusieurs pays. La fécondité allemande, italienne, espagnole, polonaise est passée au-dessous de 1,5 enfants par femme dans les années 2000, et seul l'allongement de l'espérance de vie, doublé de forts flux migratoires, permet d'éviter une rapide chute de la population. Dans ces conditions, prévoir comme le fait l'ONU une croissance démographique nulle en Europe jusqu'en 2030, puis des taux légèrement négatifs après 2030 n'a rien d'excessif et semble bien la prévision la plus raisonnable. Il en va de même pour les évolutions prévues en Asie et ailleurs. Les générations qui naissent actuellement au Japon ou en Chine sont de l'ordre de un tiers moins nombreuses que celles qui ont vu le jour dans les années 1990. La transition démographique est en grande partie déjà écrite. Des changements dans les choix individuels et les politiques suivies peuvent sans doute modifier à la marge ces évolutions. Par exemple, les taux faiblement négatifs, comme au Japon ou en Allemagne, peuvent devenir faiblement positifs, comme en France ou dans les pays scandinaves, ce qui constitue déjà une différence importante, mais sans doute pas davantage, au moins pour les quelques décennies à venir. Pour ce qui concerne le très long terme, tout est évidemment beaucoup plus incertain. On peut cependant rappeler que si le même rythme de croissance démographique que celui observé entre 1700 et 2012, soit 0,8% par an, devait se poursuivre au cours des siècles à venir, alors cela impliquerait une population mondiale de l'ordre de 70 milliards d'habitants en 2300. Certes, rien ne peut être exclu, qu'il s'agisse des comportements de fécondité ou des avancées technologiques, qui peut-être permettront un jour une croissance beaucoup moins polluante qu'on ne parvient à l'imaginer actuellement, avec de nouveaux biens et services presque entièrement dématérialisés et des sources d'énergie renouvelables et débarrassées de toute empreinte carbone. Mais à ce stade, il n'est pas exagéré de dire qu'une population mondiale de 70 milliards d'habitants ne semble ni spécialement plausible ni particulièrement souhaitable. L'hypothèse la plus probable est que le taux de progression de la population mondiale dans les prochains siècles sera nettement au-dessous de 0,8%. La prévision officielle, qui est celle d'une croissance démographique positive mais faible, 0,1%, 0,2% par an, à très long terme, semble a priori assez plausible. La croissance, source d'égalisation des destins. En tout état de cause, l'objectif de ce livre n'est pas de faire des prévisions démographiques, mais bien plutôt de prendre acte de ces différentes possibilités et d'en analyser les implications pour l'évolution de la répartition des richesses. Car la croissance démographique n'a pas seulement des conséquences pour le développement et la puissance comparée des nations, elle a également des implications importantes pour la structure des inégalités. Toute autre chose égale par ailleurs, une croissance démographique forte tend en effet à avoir un rôle égalisateur, car elle diminue l'importance des patrimoines issus du passé et donc de l'héritage. Chaque génération doit en quelque sorte se construire par elle-même. Pour prendre un exemple extrême, dans un monde où chacun aurait 10 enfants, alors il est clair qu'il vaut mieux, en règle générale, ne pas trop compter sur l'héritage, puisque tout sera divisé par 10 à chaque génération. Dans une telle société, le poids global de l'héritage se trouve fortement réduit et il est dans la plupart des cas plus réaliste de miser sur son travail ou sur sa propre épargne. Il en va de même lorsque la population est constamment renouvelée par des migrations, comme en Amérique. Dans la mesure où la plupart des migrants arrivent sans patrimoine important, la masse des patrimoines issus du passé est par nature relativement limitée dans de telles sociétés, par comparaison à la masse des nouveaux patrimoines accumulés par l'épargne. L'accroissement démographique par apport migratoire entraîne toutefois d'autres conséquences, notamment en termes d'inégalité entre les migrants et autochtones et à l'intérieur de ces deux groupes, et ne peut donc totalement se comparer à la situation d'une société où le dynamisme de la population proviendrait principalement de l'accroissement naturel, c'est-à-dire par la natalité. Nous verrons que l'intuition sur les effets d'une forte croissance de la population peut dans une certaine mesure se généraliser à des sociétés en croissance économique, et non seulement démographique, très rapide. Par exemple, dans un monde où la production par habitant serait multipliée par 10 à chaque génération, alors mieux vaut compter sur le revenu et l'épargne issus de son propre travail. Les revenus des générations précédentes sont tellement faibles par comparaison aux revenus actuels que les patrimoines accumulés par les parents ou grands-parents ne représentent pas grand-chose. Inversement, la stagnation de la population, et plus encore sa diminution, accroît le poids du capital accumulé par les générations précédentes. Il en va de même de la stagnation économique. Avec une croissance faible, il paraît en outre assez plausible que le taux de rendement du capital dépasse nettement le taux de croissance, condition dont nous avons déjà noté dans l'introduction quelle était la principale force poussant vers une très forte inégalité de la répartition des richesses à long terme. Nous verrons que les sociétés patrimoniales observées dans le passé et fortement structurées par le patrimoine et l'héritage, qu'il s'agisse des sociétés rurales traditionnelles ou des sociétés européennes du XIXe siècle, ne peuvent émerger et perdurer que dans des mondes de croissance faible. Nous examinerons dans quelle mesure le retour probable à une croissance faible, s'il se réalise, aura des conséquences importantes pour la dynamique de l'accumulation du capital et la structure des inégalités. Cela concerne notamment le possible retour de l'héritage, phénomène de long terme, dont les effets se font déjà sentir en Europe, et qui, le cas échéant, pourrait s'étendre à d'autres parties du monde. Voici pourquoi il est si important, dans le cadre de notre enquête, de nous familiariser dès à présent avec l'histoire de la croissance démographique et économique. Mentionnons également un autre mécanisme, potentiellement complémentaire, même s'il est moins important et plus ambigu que le premier, par lequel la croissance peut aller dans le sens de la réduction des inégalités, ou tout du moins d'un plus rapide renouvellement des élites. Lorsque la croissance est nulle ou très faible, les différentes fonctions économiques et sociales, les différents types d'activités professionnelles, se reproduisent quasiment à l'identique d'une génération sur l'autre. Une croissance continue, ne serait-ce que de 0,5%, 1% ou 1,5% par an, signifie au contraire que de nouvelles fonctions se créent en permanence, que de nouvelles compétences sont nécessaires à chaque génération. Dans la mesure où les goûts et les capacités humaines ne se transmettent que très partiellement à travers les générations, ou tout du moins de façon beaucoup moins automatique et mécanique que le capital terrien, immobilier ou financier peut se transmettre par héritage, la croissance peut donc conduire à faciliter l'ascension sociale de personnes dont les parents ne faisaient pas partie de l'élite. Cette possible augmentation de la mobilité sociale n'implique pas nécessairement une diminution des inégalités de revenus, mais limite en principe la reproduction et l'amplification dans le temps des inégalités de patrimoine, et donc, dans une certaine mesure, l'ampleur à long terme des inégalités de revenus. Il faut toutefois se méfier de cette idée un peu convenue, selon laquelle la croissance moderne agirait comme un incomparable révélateur des talents et des aptitudes individuelles. Cet argument a sa part de vérité, mais il a trop souvent été utilisé depuis le début du XIXe siècle pour justifier toutes les inégalités, quelle que soit leur ampleur et leur origine véritable, et pour parer de toutes les vertus les gagnants du nouveau régime industriel. Charles Dunoyer, économiste libéral et préfet sous la monarchie de Juillet, écrivait ainsi en 1845, dans son livre intitulé « De la liberté du travail », dans lequel il s'oppose naturellement à toute législation sociale contraignante, « L'effet du régime industriel est de détruire les inégalités factices, mais c'est pour mieux faire ressortir les inégalités naturelles. » Pour Dunoyer, ces inégalités naturelles comprennent les différences de capacités physiques, intellectuelles et morales et se trouvent au cœur de la nouvelle économie de croissance et d'innovation qu'il voit un peu partout autour de lui et qui fait qu'il refuse toute intervention de l'État. Les supériorités sont la source de tout ce qu'il y a de grand et d'utile. Réduisez tout à l'égalité et vous aurez tout réduit à l'inaction. Dans les années 2000-2010, on entend parfois exprimer cette même idée, selon laquelle la nouvelle économie de l'information permettrait aux plus talentueux de démultiplier leur productivité. Force est de constater que cet argument est souvent utilisé pour justifier des inégalités extrêmes et pour défendre la situation des gagnants, sans grande considération pour les perdants, ni d'ailleurs pour les faits, et sans véritablement chercher à vérifier si ce principe bien commode permet ou non d'expliquer les évolutions observées. Nous y reviendrons.